Alors, pour présenter cet ouvrage dont il est question, Un monde de camp, ouvrage collectif d'une trentaine d'auteurs, que j'ai eu le plaisir de réunir, d'organiser avec l'étroite et permanente collaboration de Clara Le Cadet et avec, avec l'aide, l'assistance, le travail aussi très présent, très courageux, très important pour arriver jusqu'au bout d'Émilie Traub, qui est aussi celle qui nous a aidé à organiser les voyages des uns et des autres et organiser ce colloque. Pour présenter cet ouvrage, je pourrais d'abord, d'une pierre deux coups, remercier l'équipe de l'Hebdo Le 1 d'avoir consacré leur dossier de cette semaine à un monde de réfugiés. Et puis, poursuivre la phrase que j'étais en train de prononcer quand ils ont terminé mon entretien dans cette hebdo, phrase dans laquelle je disais « Il est important de connaître les camps, de dire leurs noms comme des lieux parmi les plus anticipateurs du monde à venir, Dadaab, Maeba, Chatila, Maela, Loukolé, Tindouf, Kachagari, Kofinou, Le Hanoul. » Et donc, je voudrais poursuivre, puisque on n'a pas pu mettre, évidemment, on aurait dû consacrer toutes les pages à cette liste de noms. Agamé, Sainte-Livrade, Kakouma, Nahr al-Bared, Deiché, Wad Sharifé, Yarmouk, Canaan, Pavarando, Lampedusa, Patras, Belyounech, Tinzawaten. Voilà donc pour ce qui est de dire les noms, mais ou à peine de commencer la liste d'une série de noms qui est, comme on l'a évoqué, qui peut être interminable, mais aussi dire les noms, parce qu'il faut faire exister ces lieux, les faire connaître, des lieux dont les habitants, comme dans toutes les villes finalement, vont de quelques centaines à 450 000, comme le camp de Dadaab, que Anou Siddiqui, qui est là, a étudié, et dont elle nous présente un chapitre dans l'ouvrage. Les faire exister dans le langage, en parler, sans en faire des tabous, sans les dramatiser, en reconnaissant simplement qu'ils font partie du monde aujourd'hui. Mais il est important aussi, comme je le disais, de les connaître. Donc c'est à cela que sont consacrés les 25 chapitres de cet ouvrage, chacun correspondant à l'un des noms que je viens de nommer, et donc je ne peux pas nommer aussi tous les auteurs, ça serait long là aussi, qui ont écrit tous ces chapitres, qui ont mené toutes ces recherches. Et donc il a fallu du temps pour faire cet ouvrage, pratiquement 2 ans pour réaliser l'ouvrage lui-même, mettre en commun les cas étudiés, les discuter les uns les autres, et plus encore pour mener les recherches, les enquêtes de terrain, et donc beaucoup de programmes de l'Agence nationale de la recherche, Monsieur Errant, beaucoup de programmes, plus d'un programme de l'Agence nationale de la recherche, le programme Mobilité et Globalisation, MobGlob, qui nous a permis de mener tout ça maintenant, mais aussi avant le programme Asile, le programme Transguerre, le programme Terre Ferme, je crois que c'est à celui-là dont il a été fait référence, et d'autres programmes. Il en faut beaucoup pour arriver à réunir toutes ces enquêtes de terrain et donc amener tous les sujets portés par les chercheurs qui ont mené ces enquêtes. Certes, il n'est pas facile de les connaître, tous ces lieux, tous ces camps. Les données et les lieux eux-mêmes ne sont pas faciles d'accès. Tout récemment, Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré « Je hais les camps ». Pourtant, le HCR crée et gère des dizaines et des centaines de camps depuis de nombreuses années. Et donc, je me suis demandé, est-ce que M. Guterres découvre que le HCR qu'il dirige ouvre et crée et gère des camps depuis des années ? Est-ce que c'est un bon humaniste qu'il veut nous dire, comme tout le monde, que c'est du domaine de l'horreur et de l'exception et que peut-être il ne faudrait pas en parler, tellement c'est tabou, tellement c'est difficile ? Ou bien est-ce que là, c'est simplement d'assumer qu'une institution internationale elle-même constate qu'elle a contribué à produire, je ne dis pas qu'elle a produit toute seule, qu'elle a contribué à produire une réalité honteuse parfois invisibles ou qu'on aimerait autant rendre invisibles, et donc ne pas nommer, ne pas désigner. Le HCR crée et gère des dizaines et des centaines de camps, l'UNRWA aussi, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Des centaines d'ONG internationales gèrent des camps de déplacés, gèrent aussi des camps de réfugiés. Le HCR fait sous-traiter par 150 ONG internationales et 450 ONG nationales le management des camps. Tout cela, on ne le sait pas en allant demander, en allant poser la question au HCR, comme on ne sait pas le nombre des camps et la constitution du nombre et de la localisation des camps dans le monde, est un travail encore en cours, qu'on a voulu lancer, qu'on a voulu mener à part cet ouvrage, mais qui est encore en cours. Je vais en reparler tout à l'heure. Au contraire, donc, je crois qu'il convient d'ouvrir les camps, et non pas de les fermer à la connaissance, de les ouvrir à la connaissance, de les ouvrir aussi à la relation avec ce qui est à leur extérieur. Ouvrir les camps et tous les camps, aussi bien, et de ce point de vue-là, il y a une correspondance, aussi bien ce qu'on appelle les camps d'étrangers en Europe ou les centres de rétention, que les camps de réfugiés ou les camps de déplacés dans les pays africains, asiatiques ou du Moyen-Orient. Il faut les ouvrir pour les connaître, pour se faire connaître auprès des gens qui habitent aussi dans ces lieux, reconnaître qu'ils existent et qu'ils vivent dans ces lieux, et produire ainsi, d'une certaine façon, malgré le camp, produire ainsi de la relation, produire de l'échange qui contribuera, non pas à détruire les camps, parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus question de haïr et de détruire les camps, mais les transformer ou participer à leur transformation, et notamment leur transformation sociale et urbaine. Il s'agit aussi de constater donc tout le changement social, culturel, politique dont ils sont le lieu et qui représente une réalité aujourd'hui indispensable pour penser l'avenir ou penser au moins une partie de l'avenir de ces espaces et des manières d'être. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais effectivement, la multiplication des camps correspond aussi à ce qu'on appelle aussi de plus en plus maintenant la miniaturisation des camps plus petits, plus nombreux, plus dispersés, moins visibles que le grand camp de Dadaab, qui finalement donne une certaine publicité à l'ensemble des camps. C'est aussi effectivement la tendance, et c'est une tendance qui nous aide à penser ce que peut être l'avenir du monde. Mais aussi, et c'est donc la question également provocatrice que pose l'ouvrage et l'orientation que nous avons tous voulu donner dans cet ouvrage, c'est certains auteurs ont dit finalement ce sont des espaces à peu près comme les autres, mais non, bien sûr, ce ne sont pas des espaces tout à fait comme les autres, mais tous, je crois, tous ces lieux, tous ces hors-lieux, toutes ces zones produits du zonage global posent la question à tous ceux qui les observent, c'est est-ce qu'une vie, comme je reprends le terme du Judith Butler, une vie bonne est-elle possible dans une vie précaire, des vies qui n'ont pas de valeur, des vies dont on ne fera pas le deuil lorsqu'elles disparaîtront, des noms qu'on ne connaît pas, sont tout de même des vies qui se réorganisent pour elles-mêmes, qui se resocialisent, qui se reconstruisent des familles, qui reconstruisent de l'habitat. Et donc, il nous pose la question, oui, dans ces lieux précaires et dont on dit qu'on ne veut pas les voir et qu'on les hait, de la vie se réorganise. Donc, voilà la question qu'on pose centralement, je veux dire, dans cet ouvrage et qui va vers la banalisation des camps, comme on dit, mais aussi vers une vie ordinaire, une vie globalisée, ordinaire. Je vais laisser Clara présenter un peu plus en détail l'ouvrage, et puis je reviendrai pour juste vous montrer le dernier état de la carte des camps qui est dans le volume et dont on est sur lequel on est toujours en travail.
Merci. Alors je vais essayer de vous parler un peu plus en détail de la composition de l'ouvrage, mais je voudrais en aparté adresser bien évidemment un grand remerciement à Michel Agier pour m'avoir embarqué sur ce projet tout à fait passionnant et enthousiasmant. Puis je voulais aussi remercier tous les auteurs, ils étaient nombreux, avec qui j'ai eu souvent beaucoup de plaisir à échanger, dont j'ai beaucoup appris. Je voulais aussi remercier Fiona Midos, que j'ai rencontrée grâce à Michel Agier au cours de l'organisation de ce projet, qui a été d'une grande aide dans l'organisation du colloque, ainsi qu'Hélène Thiollet, dont je ne vois pas où elle est, elle est peut-être partie déjà, qui coordonne avec Catherine Vittel de Vanden le beau projet ANR dans lequel s'est inscrit le projet Paysage global de Caen. Alors, l'ouvrage, il se compose de 4 parties. On va rentrer dans des considérations un peu prosaïques. La première partie s'intitule « Temps long, espace en conflit, les camps de réfugiés entre identité, mémoire et politique ». Cette première partie, elle vise à réinscrire l'existence des camps de réfugiés dans un temps long, témoignage de conflits anciens. C'est ainsi que le camp de Chatila, officialisé au début des années 50, le plus ancien des camps présentés dans le livre, apparaît dans le chapitre de Alaa Abouzaki comme un fragment d'une histoire à la fois palestinienne, libanaise et régionale. Les camps afghans mis en place au Pakistan à partir des années 80 sont également une composante essentielle de l'histoire d'une, je cite, « nation en exil », selon l'expression de Pierre Sanslivre, tant les mobilités de part et d'autre de la frontière afghano-pakistanaise ont modelé l'histoire de l'Afghanistan dès la fin des années 70. L'ambivalence des camps est d'être à la fois source de nouveaux contextes urbains, mais aussi de ne constituer que des relais, des jalons dans des parcours de mobilité historiques et ou contemporains. Décrivant le camp des réfugiés angolais de Maeba en Zambie comme un settlement, un espace semi-ouvert, Pedro Neto montre comment se bâtit à l'intérieur du camp une mémoire et des représentations autour du pays d'origine qui rendent ensuite possible ou empêchent le retour des réfugiés en Angola. La question de la mémoire traverse également le texte de Marc Bernardo sur le centre de Saint-Livrade, considéré comme le dernier camp français conçu pour les rapatriés d'Indochine. Alors, dans ce chapitre, il est également question d'un sujet relativement méconnu, tant les camps de réfugiés sont perçus comme des espaces apolitiques, soustraits aux règles habituelles de la vie sociale. C'est la question de la politisation des réfugiés à l'intérieur des camps, un sujet que Simon Turner aborde dans sa chapitre sur le camp de Lukole en Tanzanie, chapitre dans lequel il montre que la position de victime et de sujet politique est souvent perçue comme incompatible pour les représentants de l'ordre humanitaire et que l'aspiration des réfugiés à trouver des formes de représentation à l'intérieur des camps se heurte aux organismes chargés de leur gestion. Alors, en poussant un peu plus loin et de manière encore un peu plus extrême cette lecture de la politisation des camps, on a certaines contributions qui font des camps la matrice même d'un projet politique. Alexander Horstmann montre que les camps de réfugiés birmans en Thaïlande sont devenus le creuset du projet national Karen. Sur une thématique proche, Manuel Hertz montre que les camps sahraouis près de Tindouf en Algérie, créés en 1975, sont le lieu de l'État sahraoui en exil et le siège d'un proto-État, avec ses administrations et ses bâtiments officiels, dans un espace entièrement autogéré, décrit comme une société émancipée et quasi-urbaine. L'ensemble de ces chapitres sur la politique dans les camps remet radicalement en question la représentation des camps comme des espaces apolitiques pour montrer que les camps deviennent des lieux d'expérimentation politique pour les réfugiés en partie ou totalement auto-organisés. La deuxième partie s'intitule « Camps, villes et territoires, de l'industrie humanitaire à l'aménagement des espaces locaux » et elle est davantage centrée sur une approche architecturale des camps et sur leur rapport à leur environnement régional. Anuradha Eyer Siddiqui fait une proposition forte en qualifiant les ressources et la technologie mise en œuvre lors de la création du camp de Dadaab au Kenya, le plus grand camp du monde, d'industrie humanitaire. C'est son expression. Elle questionne ainsi de façon radicale l'entreprise humanitaire, industrie qui exploite la souffrance humaine en même temps qu'elle cherche à la soulager, en s'appuyant sur une technologie et une culture propres. Si elle décrit la construction de Dadaab par des ingénieurs et des architectes venus du monde entier, c'est de reconstruction dont il s'agit dans le texte de Nicolas Puig, qui décrit comment Nahr el-Bared de Liban fut reconstruit presque à l'identique après sa destruction en 2007, selon un projet impliquant la participation de ses habitants. Le texte d'Alessandro Petti, Sandy Lal et Eyal Vesman porte sur un projet architectural original qui vise à faire dialoguer le camp palestinien de Deïché avec le village d'origine de Misca en Israël. Les camps s'inscrivent dans une économie globale et dans des logiques de mobilité à la fois locale, régionale et internationale. Kamel Doray décrit ainsi les logiques de mobilité et les questions de statut des réfugiés à l'échelle du Moyen-Orient. Hélène Thiollet parle d'un espace social transnational pour rendre compte de l'évolution et des transformations d'un réseau de camps de réfugiés érythréens au Soudan. Dans ces camps qui abritent des situations de réfugiés de longue durée, le retrait du HCR ne signifie pas du tout la fin des camps. Bram Jensen, quant à lui, décrit comment le camp de Kakuma au Kenya est devenu un pôle d'attractivité économique pour toute une région. Dans tous ces chapitres visent à réinscrire l'histoire, enfin la réalité des camps dans un contexte plus large, en montrant comment ils font partie d'un régime globalisé. Alors la troisième partie s'intitule « Camps de déplacés, urgence, marges urbaines et vie précaire » et elle donne un éclairage sur l'existence des camps de déplacés internes qui représentent une part considérable des camps dans le monde, même s'ils sont difficiles à répertorier. Ce type de camp est lié à l'existence de conflits internes. Les zones humanitaires décrites par Stelio Rolland en Colombie ont ainsi permis aux populations civiles d'aménager des espaces de paix face à la violence de la guérilla. Ils servent, ces camps de déplacés, également de refuge pour les victimes de catastrophes naturelles. François Gémène, dans son étude des solutions de relogement organisées pour les sinistrés de Fukushima, met ainsi l'accent sur les logiques sociales à l'œuvre dans le traitement et les capacités d'organisation des déplacés et sur ce que l'on répugne à appeler des camps dans les pays riches. Les camps de déplacés sont généralement marqués par l'urgence, mais ils sont aussi, dans la durée, des facteurs de réorganisation urbaine. Alice Corbet montre que le camp de Canaan répond à une logique de peuplement et d'installation spontanée par les victimes du tremblement de terre à Haïti sur une terre vide, que son homologue officiel et humanitaire, le camp Corail, finalement abandonné par la population. Agnès Geoffroy montre, sur une période de 30 années, que les camps des populations déplacées et migrantes de la périphérie de Khartoum ont été, en vertu d'une politique volontariste, progressivement intégrés au tissu urbain, avec la création des Dar es Salaam, les territoires de paix, et l'accès d'une partie de ses habitants à la propriété foncière. La quatrième et dernière partie, intitulée « Campement, camp de travailleurs, centre de rétention entre prison, bidonville et ghetto », mais véritablement en relief l'hypothèse qui structure l'ensemble du livre d'un continuum entre les espaces de la mise à l'écart au sud et au nord. Si la majeure partie des contributions précédentes se réfère à des figures relativement classiques de camps de réfugiés et de déplacés, cette partie en présente des avatars originaux. Les camps de travailleurs migrants sont emblématiques, nous dit Tristan Brûlé, d'un régime d'exploitation et de ségrégation spatiale et politique de la main-d'œuvre étrangère au Qatar. Le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Kofinou à Chypre, décrit par Olivier Clochard, apparaît également comme un lieu où la figure du travailleur se superpose à celle du migrant, puisque le centre constitue un vivier pour le recrutement d'une main-d'œuvre subalterne. La signification des camps s'inscrit dès lors dans le registre plus large de la gestion des mobilités au sud et au nord, permettant d'envisager des thèmes structurants de la mondialisation qui touchent à l'usage et au traitement des travailleurs migrants et à leurs conditions de travail, mais aussi au filtrage et à la rétention des migrants. Louis Tassin montre ainsi que le centre de Lampedusa constitue un lieu d'expérimentation de la rétention à l'échelle européenne, de même que Sarah Prestiani décrit et photographie les situations liminales vécues par les migrants aux frontières de l'Europe, à Calais, Patras, Subotica, dans ce qu'ils appellent entre eux des jungles ou des ghettos. On retrouve l'existence de ces campements sur la route de Ceuta et Melilla, où, comme le montre Jean-Louis Edoguet, la structuration politique des migrants auto-organisés aux abords de la frontière constitue une tentative collective de vivre et de traverser l'épreuve de la frontière, ce qui est vrai également pour les ghettos créés par les expulsés au Mali. Mais ce sont aussi des régimes de précarité à l'intérieur de l'Europe et au sein de ses citoyens dont il est question à travers l'étude de Manuel Oliveira du Hanul de Saint-Denis et plus généralement de la question Rome en France et en Europe. Le camp comme matérialité de l'habitat précaire donne ainsi accès à la pluralité des échelles et des circulations qui organisent le monde.
Juste avant de laisser venir nos collègues à la table pour discuter avec nous, je voulais juste vous montrer la carte plus 1 qui a été faite par rapport, je ne sais pas si on voit suffisamment bien, voilà. Il y a la carte 1, on va dire, qui est dans l'ouvrage, où on représente... les camps d'étrangers au nord, les camps de réfugiés et de déplacés au sud. Les camps d'étrangers au nord, c'est en Europe, en Amérique du Nord. Un régime administratif et policier où 1 million de personnes passent dans 1 millier de lieux de rétention. Et puis les camps de réfugiés et de déplacés au sud, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, où on peut évaluer à peu près à 14 millions en tout, dans environ 450 camps, les réfugiés. 6 millions plus les 1,5 million de Syriens, actuellement, on doit être à 8 millions, 8,5 millions. Et puis les camps de déplacés, toujours dans les pays du Sud, à environ 6 millions. Et entre les deux, donc, les campements aux frontières. Et c'est là qu'on commence à dire que la carte qui est dans l'ouvrage est une carte évolutive qui va évoluer, où on va créer un nouveau projet pour pouvoir faire évoluer cette cartographie des camps dans le monde. La carte 2, donc, qui a été réalisée assez rapidement avec Olivier Clochard, David Lagarde, Tristan Brulé et moi-même dans les derniers jours, est une carte qui veut ajouter à ces deux grands éléments d'autres camps qui sont d'une part les campements de migrants aux frontières, puisque entre les centres de rétention au nord et les camps de réfugiés au sud, eh bien, il y a les frontières bloquées qui créent elles-mêmes leurs campements. Et donc c'est dans ces zones frontières ou ces zones tampons qu'on trouve effectivement les campements au nord de l'Afrique du Nord, au Maroc, avec les campements autour de Ceuta et Melilla, les campements à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et les campements sur les marges orientales de l'Europe. On n'a pas encore tout parce qu'il en manque, notamment dans la partie asiatique, pas très loin du Japon. À cela s'ajoute aussi... Et c'est tout un nouveau chantier de recherche qui s'ouvre, les campements de travailleurs, de migrants travailleurs pour l'essentiel, que l'on trouve précisément dans quelques grandes zones dynamiques ou émergentes du monde, zones dynamiques et émergentes sur le plan économique et développant des rapports de travail d'un néolibéralisme violent qui inclut la mise en camp. Le Qatar et la péninsule ibérique sont concernés. Ils sont effectivement abordés dans l'ouvrage. Mais il faut y ajouter aussi le Brésil et d'autres lieux de l'Amérique latine, la Chine, l'Afrique du Sud, le sud de l'Europe et les États-Unis, où, en général, on trouve des camps de travailleurs dans les grands ensembles agro-industriels. Voilà, c'était le complément d'information et l'indication que ce projet est toujours en cours et évolutif. Et là, nous vous appelons à venir.
Il me revient de faire un petit peu les présentations, mais je pense que vous avez déjà compris qui est qui. Pour ce qui me concerne, je m'appelle Laurent Grel-Samer et je travaille à l'hebdomadaire Le 1 avec Eric Fotorino. On a lancé cet hebdomadaire il y a maintenant 6 mois. Et nous nous sommes intéressés, comme vous tous, puisque vous êtes là, au monde des camps, au monde de réfugiés. Alors autour de moi, il y a des personnes qui n'ont pas encore été présentées. Je vais essayer de le faire en peu de mots, mais pour que notre table ronde soit un petit peu claire pour vous. Donc il y a Claire Rodier, qui est, comme vous le savez peut-être, juriste, qui travaille au GISTI. Également, je crois qu'elle est cofondatrice de l'association ou de Migre Europe, et qui, entre autres, a publié quelques ouvrages. Je ne vais pas vous citer toute la bibliographie, mais en tout cas, on peut citer Xénophobie Business, qui est le dernier ouvrage paru, je crois, à la Découverte, et puis notamment un outil de travail important, nécessaire, l'Atlas des migrants en Europe. Et c'est un ouvrage collectif, je crois, mais auquel Claire Rodier a participé. Alors, je voulais également présenter rapidement Michel Lussault, qui, lui, est géographe, qui s'intéresse notamment à l'urbanisation, à l'urbanisme, et qui dirige de fait l'Institut d'urbanisme à l'ENS à Lyon, et qui, vous le savez peut-être aussi, a été nommé en septembre, début septembre, président du Conseil supérieur des programmes. Donc il nous fait l'amitié d'être présent ce soir avec un emploi du temps très chargé. Et je cite également un ou deux livres, il en a écrit davantage, mais je veux citer L'avènement du monde, essai sur l'habitation humaine de la Terre, et également De la lutte des classes à la lutte des places, un ouvrage paru au Seuil, et le second paru chez Grasset. Alors, Achille Memba, je ne vais pas le présenter, ça a été fait très brillamment tout à l'heure par Clara Lecadet. Et je vais me permettre en revanche de dire quelques mots sur Clara Lecadet, puisqu'elle a présenté Achille Memba, mais elle ne s'est pas présentée. Donc vous l'avez compris, avec Michel Agier, elle a été l'une des chevilles ouvrières de cet ouvrage. Elle en a écrit un chapitre, notamment sur le camp Agamé. Deux, pardon. Mais là, j'en ai lu qu'un. J'ai essayé de tout lire, mais je n'ai pas encore eu le temps. Un chapitre passionnant sur le camp d'Agamé au Bénin, concernant notamment des réfugiés togolais. Et c'est un chapitre tout à fait passionnant, surtout pour des lecteurs comme moi, qui sont quand même béotiens, qui découvrent, j'allais dire, ce monde des réfugiés, où on voit à quel point un camp, c'est évidemment un lieu où peuvent se réfugier des personnes qui sont pourchassées, qui sont obligées de fuir leur pays, mais c'est aussi un espace qui peut devenir un foyer politique de revendication, un foyer de lutte, et dont les habitants peuvent devenir des opposants, notamment par exemple à l'institution qui les accueille, comme le HCR. Et donc on apprend beaucoup de choses. Avant de lancer le débat, je voudrais vous faire part, comme je disais tout à l'heure, je suis un béotien dans ce domaine, mais je voudrais vous faire part de mon impression, puisque j'ai quand même lu beaucoup des chapitres de ce livre. C'est évidemment la découverte et une sorte de voyage à travers le monde des réfugiés. Et ce voyage, c'est un voyage tout à fait sidérant, puisque non seulement on a un aperçu, j'allais dire, un constat, qu'est-ce que c'est que ce monde des réfugiés que nous côtoyons souvent sans le voir, puisqu'il s'agit souvent de personnes qu'on qualifie d'invisibles, d'indésirables, en tout cas souvent des personnes qu'on ne veut pas voir, eh bien c'est tout un continent, puisqu'on a eu l'occasion de vous le dire, mais je vous rappelle un ou deux chiffres frappants. Il y a 450 camps de réfugiés placés sous l'autorité du HCR ou de l'UNRWA, mais vous avez aussi plus de 1000 camps de personnes déplacées, dites déplacées, et ce ne sont que deux chiffres parmi d'autres, parce que vous l'avez compris tout au cours de cette fin d'après-midi, il y a bien des formes de camps, il y a une très grande diversité de camps et donc d'encampements, pour reprendre l'expression en usage maintenant. Je vais maintenant donner la parole, peut-être pour commencer, je vais faire un tour de table, chacun va pouvoir s'exprimer 5 minutes et donner un petit peu sa vision et de l'ouvrage et de cette thématique. Je vais donner peut-être la parole à Michel Lussault, qui va lui donc nous parler plutôt de l'urbanité, avec ou sans guillemets, des camps de réfugiés.
Oui, bonsoir à tous. Bigre, 5 minutes pour dire tout ce que l'on voudrait dire de ce livre très riche que je vous conseille, que j'ai eu la chance de pouvoir lire, sans complètement me recouper avec ce que je vais dire demain en ouverture de la table ronde de l'après-midi. Peut-être 3 points très rapidement qui traduisent le point de vue donc d'un géographe ne travaillant pas du tout sur la question de l'encampement et des camps, mais plutôt sur la problématique de la mondialisation par l'urbanisation. Trois choses me viennent immédiatement à l'esprit après avoir lu ce livre. D'abord, quelque chose de tout à fait passionnant qui a déjà été évoqué, c'est la façon dont le camp est en quelque sorte excédé, dépassé par l'urbanisation, la façon dont les camps s'urbanisent. Il est écrit dans le livre « Le camp devient une ville par accident ». Je dirais plutôt qu'il devient de l'urbain incident. Il devient un espace durable, appuyé au départ sur une géologistique initiale très emblématique d'un registre humanitaire de la mondialité, mais une logistique qui peut elle-même être débordée par la dynamique de l'urbanisation et peu à peu, en raison de ce que l'on pourrait appeler un retour à l'ordinaire de la vie encampée, d'ailleurs un retour à l'ordinaire, le livre Le Monde, qui n'est pas forcément bien appréhendé et bien accepté par les ONG, un certain nombre d'acteurs institutionnels de l'encampement, eh bien, ce camp sort de son registre d'objet spatial fonctionnel pour devenir un véritable environnement spatial avec en son sein des objets encampés et encampants d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux et d'autres qui ne le sont plus ou détournés de ce rôle et un environnement spatial qui est approprié par des acteurs qui sont de moins en moins agis par le camp et par ses logiques et de plus en plus habitants et cohabitants. Et c'est tout à fait fascinant de voir la multiplication des cas dans ce livre. Et là, je ne parle pas de camps qui sont entourés par l'urbanisation, qui continue par ailleurs, mais véritablement de camps qui s'urbanisent dans le cadre d'un régime très particulier qu'on pourrait appeler le régime de l'impermanence durable, ce qui est une chose assez étonnante, une sorte d'état-processus, là aussi... L'expression est paradoxale, un espace-temps conçu pour ne pas durer, mais qui dure, s'indure, se complexifie, se décale des intentions initiales et nous donne des listes de cas très intéressants où le temporaire, paradoxalement, devient un ancrage. Et cette tension entre le temporaire et l'ancrage est quelque chose qui, moi, m'a intéressé beaucoup en tant que géographe. Et c'est d'autant plus intéressant que, symétriquement, peut-être que le livre pourrait aller au-delà de ce qu'il dit. Il faudrait faire un deuxième volume, mais peut-être que la Cité de l'architecture et du patrimoine va contribuer à cela. L'urbanisation ordinaire, si je puis dire, elle est aussi travaillée par la modalité de l'encampement. Il y a le mouvement retour qui est tout aussi intéressant. Alors, on pense évidemment à l'ingénierie logistique, mais on pourrait aussi penser à l'importance dans l'urbanisme et l'architecture d'aujourd'hui, en particulier dans la création la plus actuelle, de toutes les thématiques de la légèreté, de l'impermanence, de la sobriété, de ce que certains appellent l'urbanisme forain. C'est-à-dire de ce qui n'est pas fait pour durer, mais qui pourtant va s'installer. Et d'ailleurs, le mot même d'installation devient au cœur de la réflexion de toute une partie de la nouvelle architecture et du nouvel urbanisme en France comme ailleurs, dans une proximité avec la problématique de l'installation artistique qui évidemment est flagrante, mais aussi dans la proximité avec la dynamique de l'installation du camp qui participe d'une autre logique, mais le tout se rejoint. Deuxième point, à mon sens, et en droite ligne de ce que je viens de dire, petite critique de géographe, il faut quand même justifier le fait que je sois là ce soir, les camps ne sont pas véritablement pour moi des hors-lieux. C'est une discussion que nous avons depuis pas mal de temps avec Michel Agier. Ce ne sont pas véritablement des hors-lieux. D'ailleurs, pour un géographe dans mon genre, le mot hors-lieu n'a pas beaucoup de sens. Ce serait plutôt ce que j'appellerais des outre-lieux, en jouant sur le mot « outre hein, », des outre-lieux d'un genre particulier où se croisent de multiples lignes de vie et d'action, se cristallisent des stratégies politiques, se matérialisent dans des arrangements spatiaux, des jeux de force et des jeux de pouvoir, mais tout cela en permanence en interconnexion avec tous les flux du monde, une dimension qui n'est peut-être pas suffisamment prise en compte, parce qu'il est vrai qu'on a tendance à être fasciné par l'enfermement du camp. Mais il y a aussi dans tous ces textes tout ce qui renvoie à l'extérieur, tout le lien à l'extérieur, qui fait du camp à la fois un fermé, voire un enfermé, mais aussi un ouvert. C'est quelque chose d'assez, encore une fois, un paradoxe assez troublant. Ces camps sont donc des arrangements locaux d'un motif paysager global qui montre bien que la mondialisation localise autant qu'elle globalise. C'est quand même quelque chose d'assez connu aujourd'hui, mais qu'il est toujours utile de rappeler. Et forme les camps des sortes, une collection d'outre-lieux paradoxaux, des outre-lieux d'écart. Alors il y a une vieille notion géographique qui n'est pas extraordinairement contemporaine, celle de l'écart, mais qui va bien avec ce qu'est le camp. Mais un écart en tension à la fois avec le lieu origine, il y a des textes très forts, en particulier sur le cas paroxystique des camps palestiniens, mais également en tension avec le temps du retour, puisqu'il y a dans le camp la question du retour en permanence, là aussi le cas des camps palestiniens est paroxystique, mais on trouve ça partout, et cette sorte d'écart dans l'espace-temps avec ce double jeu de tension avec le lieu origine et le temps du retour est particulièrement significatif, me semble-t-il, du statut de ce lieu à la fois fermé et ouvert. Dernier point, et je vais très vite. La troisième chose qu'il m'intéresserait de discuter avec vous, mais alors là, c'est plutôt une discussion que je voudrais lancer, c'est que le camp me paraît une des expressions les plus claires de ce que je vous proposerais bien de nommer, en assumant le caractère un peu foucaldien de la proposition, un géopouvoir. C'est-à-dire, en reprenant un peu la manière dont Foucault parlait du biopouvoir, comme le pouvoir d'un certain nombre d'institutions d'ouvrir et de soutenir l'habitabilité humaine, malgré tout. En quelque sorte, un pouvoir de spatialiser la vie, pour le meilleur, et Achille Mbembe l'a montré, sans doute aussi pour le pire. Mais je trouve qu'aborder le camp, ne serait-ce que de manière purement spéculative, comme l'espace où se cristallise l'exercice de ce géopouvoir, me paraît pouvoir permettre un certain nombre de réflexions sans doute intéressantes pour prolonger le débat scientifique formidable que ce livre ouvre.
Merci Michel Lussault. Je vais donner la parole à Claire Rodier, qui, elle, je crois, va nous parler non pas d'urbanité, mais peut-être de... pas trop d'urbanité, j'ai l'impression. On va se diriger vers l'Europe et vers les tensions qui peuvent exister, y compris dans nos nations civilisées.
Merci. Oui, peut-être d'abord vous présenter rapidement le réseau MigrEurope que je représente, qui est constitué d'une quarantaine d'associations, d'ONG qui travaillent au nord et au sud de la Méditerranée, dans à peu près une vingtaine de pays, je crois, nord et sud de la Méditerranée, et d'à peu près une quarantaine aussi de militants ou de personnes individuelles et de pas mal de chercheurs, dont un certain nombre d'ailleurs sont présents dans cette salle, mais ont participé aussi à cet ouvrage, même s'ils avancent masqués et que ça ne se voit pas dans l'intitulé de la table des matières. Ce que je voudrais dire par rapport au livre, à cet ouvrage, c'est que finalement, son fil conducteur rejoint les analyses du réseau MigrEurope depuis sa création, à propos de sa création, c'est à peu près une dizaine d'années, à propos des camps d'étrangers, thème qui a constitué son premier objet de mobilisation et de travail sous la forme d'une carte, qui était la première carte des camps de détention d'étrangers en Europe et à ses frontières, et qui est parue, je crois, dans la première édition, date de 2003, et figure dans l'atlas des migrants en Europe auquel elle a été fait allusion. Pourquoi ? Parce que l'ouvrage montre à quel point est ténue la frontière qui sépare des dispositifs a priori différents, c'est-à-dire les camps à vocation de prise en charge humanitaire des populations déplacées, notamment les réfugiés, les camps de détention qui sont un des chaînons d'une gestion policière des déplacements d'immigrants, et puis les camps dits informels qui sont souvent autoconstitués par les migrants, par les exilés, par les réfugiés, que les politiques migratoires bloquent ou repoussent ou isolent à certains points cruciaux. Et pour vous montrer à quel point il me semble qu'il y a une convergence entre ces réflexions au sein de Migre Europe et l'ouvrage que je vous conseille de lire, je vais vous faire une petite citation qui date de la première présentation de Migre Europe quand le réseau s'est créé, qui expliquait qu'un camp peut éventuellement être un processus et non un espace physique. La mise à l'écart et le regroupement des étrangers ne se traduit pas simplement par la création de centres fermés. L'Europe des camps, c'est l'ensemble des dispositifs qui constituent des points d'interruption forcés dans des itinéraires migratoires. Empêcher des personnes de passer une frontière, d'entrer sur un territoire, les assigner à résidence, soit légalement, soit par harcèlement policier, les enfermer. Je passe, je vais plus vite. Elles peuvent être, parmi d'autres, les multiples formes de cette Europe des camps. Mais le camp policier peut apparaître aussi déguisé sous les habits de la nécessité humanitaire. Malgré un discours officiel compassionnel et euphémisant, il ne s'agit que de l'envers d'une même politique de mise à l'écart des étrangers. Il me semble qu'il y a pas mal de convergence avec ce que disait Migre Europe à l'époque. Et ça me semblait intéressant de le relever. Ceci posé, je voudrais aborder très brièvement, plus en particulier si on prend ces typologies, rétention, camp plutôt humanitaire et auto-camp, à la catégorie de la rétention qui figure dans l'ouvrage dans la quatrième partie et dans le colloque vendredi après-midi, c'est-à-dire les camps fermés, les camps où les personnes sont détenues en attente d'une procédure d'expulsion. On remarque d'ailleurs que tant dans le livre que dans le colloque, cette catégorie a une place très réduite. Ce sera mon petit reproche à moi, il en faut bien un. Et sans doute, j'ai une explication finalement, c'est que c'est sans doute les lieux dans lesquels les chercheurs, tout comme les médias, tout comme les associations et tout comme la société civile en général, a le plus de difficultés à accéder. Et donc c'est normal qu'il y ait moins de travail réalisé là-dessus. C'est pour creuser cette opacité, c'est à creuser cette opacité que s'emploie les membres du réseau Migre Europe, tout d'abord en réalisant cette carte des camps en Europe et autour, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous donne un bilan de 420 camps de détention d'étrangers qui ne sont enfermés que pour avoir enfreint les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, hein, aucune infraction pénale, aucune condamnation, pas de passage devant un juge. 420 camps d'étrangers, une capacité de 37 000 places, souvent bien dépassée parce qu'il y a de la surpopulation dans certains endroits. 600 000 personnes par an qui passent en Europe dans ces centres de détention, moins de la moitié sont expulsées, ce qui laisse à réfléchir sur les réelles motivations de ce dispositif croissant d'installation de camps d'étrangers sur le territoire des États européens. Alors, on peut imaginer quelques raisons. Sans doute la stigmatisation, la désignation d'un ennemi, la criminalisation des migrants fait partie des logiques qui sont derrière la mise en place de ces camps. Mais nul doute aussi qu'ils ont une fonction économique de plus en plus privatisée. Les camps d'étrangers sont une source de profit croissante. Pour mettre en évidence ces dispositifs de détention d'étrangers en Europe, dispositifs très méconnus puisqu'ils sont peu couverts par la recherche et même par les associations, le réseau Migre Europe a mis en place un réseau, là encore, et un site qui, sous le nom de Open Access Now, voilà, qui est assez explicite, essaie de lever le voile sur ce qui se passe dans les lieux d'enfermement des migrants en indiquant, avec un site interactif, tous les lieux de détention des étrangers sur le territoire européen, tous ceux qui ont pu être identifiés, puisqu'il n'existe aucune donnée officielle dans ce domaine, ça vient uniquement du travail des ONG et des chercheurs. tout ce dont peuvent avoir besoin tant les chercheurs, justement, les journalistes, que les migrants eux-mêmes, puisque, ou ceux qui les aident, puisqu'il suffit d'aller se balader sur ce site pour avoir la capacité, s'il y a des avocats, s'il y a des associations qui peuvent aider, etc. L'autre outil qu'a développé Migre Europe en matière d'accès, de tentative d'accès, c'est... parce que ces lieux sont fermés à tout le monde, pour la plupart, je l'ai dit, les ONG, les journalistes, les chercheurs, c'est d'essayer d'entrer dans les camps de toutes les façons. Une directive européenne prévoit que les États membres peuvent autoriser les ONG à entrer, mais le « peuvent » permet aux États de refuser l'accès en évoquant des raisons comme le maintien de l'ordre ou l'organisation interne. On nous a opposé aussi que les étrangers qui sont dans les centres de détention ne sont pas des animaux qu'on va voir comme dans un zoo, qu'il faut préserver leur vie privée, donc c'est normal qu'on nous interdise à nous, ONG, d'aller les rencontrer, d'aller les faire témoigner. On rencontre beaucoup de mauvaise volonté de la part de tous les États membres de l'Union européenne. Et finalement, une des méthodes utilisées, c'est d'essayer d'accompagner les seules personnes qui sont habilités à entrer dans les lieux de rétention, ce sont les parlementaires. Encore faut-il que les parlementaires aient envie d'aller dans les centres de rétention. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors, il y en a certains, on les accompagne. Je crois que le premier article qui a été fait sur commencer à l'intérieur de la zone d'attente de Roissy-Charles de Gaulle, dans laquelle sont enfermés plus d'une centaine d'étrangers en permanence. Le premier article qui a été fait, il a été fait par une journaliste du Monde qui s'est fait passer pour une assistante parlementaire parce que, ayant demandé une autorisation au nom de son journal, elle ne l'avait pas obtenue du ministère de l'Intérieur. Je vais terminer là en disant que notre objectif, et là c'est aussi une interpellation à vous, chercheurs, jeunes doctorants, jeunes chercheurs qui êtes dans la salle, peut-être certains journalistes aussi, aidez-nous à forcer ces portes. Quand on parle de Open Access Now, ça s'adresse à tout le monde. Nous avons milité aussi pour que les médias puissent accéder plus librement aux centres de rétention, aux zones d'attente, ne soient pas obligés de faire comme cette journaliste du Monde, c'était en 2001. Et un projet de loi va bientôt être présenté devant le Parlement qui prévoit la possibilité pour des journalistes d'aller librement, en tout cas sans accompagner un parlementaire, dans les centres de rétention, dans les zones d'attente. Ça nous semble particulièrement important d'associer la société civile, vous, universitaires, et les journalistes et les médias à cette campagne. Sinon, on continuera à laisser ces lieux dans l'ignorance. En citant Hannah Arendt, Michel Agier dit « Il faut rendre les camps célèbres ». Nous nous associons parfaitement à cet objectif et à notre tour, nous voulons essayer de rendre les camps célèbres en les faisant connaître. Merci.
Alors, rendre ces camps célèbres, c'est effectivement un petit peu le but. Et dans cet ouvrage collectif, de fait, cette opacité, on apprend quand même un petit peu à la percer, parce que c'est l'occasion de le dire, il y a trois ambitions dans le livre. Il y a d'abord une sorte de constat, une description de cet univers de camps. Claire Rodier vient de nous faire un petit peu pénétrer dans ces camps ultra fermés que sont ces camps ces zones de rétention, ces centres où on parque les étrangers. Il y a également tous ces camps de réfugiés dans le monde dans les pays du Sud, qui sont de nature très différente. Donc il y a toute cette partie descriptive qui est passionnante, qui est surtout pour des personnes qui connaissent mal ces dossiers. Il y a, j'allais dire, une partie plus historique qui, elle aussi, est intéressante, puisque maintenant, il y a une sorte, on a un recul. Les premiers camps ont été ouverts dans les années 50, donc on a une bonne soixantaine d'années de recul, d'épaisseur, si j'ose dire. Et puis, il y a une fonction qui est évidente à écouter les intervenants ce soir. C'est une fonction critique qui est véritablement très, très saillante et intéressante. Alors, j'appuie un peu, je vais jouer un petit peu l'innocent, mais j'aimerais peut-être poser la question à Achille Membe et à Michel Agier. Finalement, le grand public a souvent l'impression que ces fameux camps de réfugiés que l'on critique beaucoup dans le livre et ici à cette table, on a souvent l'impression, visiblement fausse, qu'ils sont finalement une sorte de planche de salut pour un certain nombre de personnes qui fuient un pays en guerre ou en tout cas en proie à des exactions ou à des régimes dictatoriaux. Et j'aimerais bien que Achille Mbembe et Michel Agier nous expliquent en quoi, effectivement, il y a une ambivalence, et Michel Agier l'a déjà souligné un petit peu, mais en quoi cette ambivalence, eh bien, effectivement, un camp de réfugiés, est-ce qu'il faut le voir uniquement dans sa fonction positive, planche de salut momentanément pour un réfugié, ou est-ce qu'il faut surtout en voir la face la plus négative? Je donne d'abord la parole à Achille Mbembe.
Deux choses. Le livre, il est un très beau livre. En le lisant, après l'avoir lu, je me suis trouvé en train de me dire, ah, au fond, peut-être que le camp, c'est pas si mauvais que ça. Je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai eu cette réaction. Mais moi, j'ai pas envie de vivre dans un camp. Je ne crois pas que dans l'idéal, les gens devraient vivre dans des camps. Les gens devraient vivre comme des citoyens à part entière dans les pays où ils sont nés. Ils devraient pouvoir circuler dans des conditions légales. Je crois qu'à trop banaliser le camp, ce que le livre ne fait pas, je dois dire, on perd peut-être de vue le fait que le projet devrait être d'abolir les camps. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que le projet pour le siècle qui vient, c'est d'abolir les camps. Il faut fermer les camps, projet politique. Il faut les fermer. Il faut fermer Gaza, il faut fermer les camps dans l'est du Congo, en Tanzanie, en Guinée, ainsi de suite. Il faut détruire les murs qui enferment les gens dans les camps. Alors vous allez me demander comment, et ainsi de suite. Voilà, il faudrait qu'on discute des moyens. Voilà une première réponse, Laurent, à votre question. Je crois que Le principe camp, c'est un peu comme le principe parc. Il y a une dimension zoologique du camp d'hier comme du camp d'aujourd'hui, qui nous oblige à continuer de faire peser sur ce phénomène une réflexion, vous disiez, de type biopolitique et philosophique, qui viendrait s'ajouter, évidemment, à la démarche proposée par Michel et ses collègues, qui est une démarche descriptive, ethnographique, historique et critique. Et donc, cette parenté entre le camp et le parc, et cette dimension zoologique, je crois que tout cela nous oblige, en tout cas, certains d'entre nous, d'un point de vue politique, à réclamer l'abolition des camps. Le dernier point, j'ai l'impression que, au fond, il y a aujourd'hui à l'âge que j'ai essayé d'écrire dans la conférence tout à l'heure, d'autres mécanismes de production des camps qui sont mis en place de manière subreptice. et que, au fond, quelque part, le projet, et je le répète, c'est de faire de chacun d'entre nous un camp ambulant. Qu'il y a une manière d'abolition des camps qui est en train de passer par l'intériorisation chez chaque individu, de manière d'être qui font de l'individu un camp. Au point où on n'aura plus besoin de camp comme espace exceptionnel, ainsi de suite, où nous agirons les uns à l'égard des autres comme autant d'entités d'encampement. Je crois qu'il faut prendre cette hypothèse au sérieux. La sorte d'état de siège que l'on observe dans des endroits comme Gaza, et quelques autres d'ailleurs, cet état de siège vise désormais non pas seulement une masse de gens parqués quelque part dans un endroit donné, mais que cet état de siège, pour être fonctionnel à l'avenir, vise les individus eux-mêmes. Et que les formes de codification en cours, disons, travaillent précisément vers ce but, et que de ce point de vue, la forme camp est un énorme danger, à la fois pour la société mondiale, ce que Michel appelle la société mondiale, et pour la coexistence entre humains, des humains entre eux, et des humains avec le reste des espèces vivantes.
Je me félicite de temps en temps de poser des questions un peu sottes. Michel Agier, est-ce que vous voulez réagir ?
Oui, merci. Moi, je me réjouis que nous voilà déjà dans le débat qui va nous occuper pendant ces deux jours. Donc, merci à Michel, Claire et Achille d'avoir poser ces questions, poser ces jalons. Mais je partirai de votre question. C'est toujours la question qui nous est posée, en fait. Il y a deux questions qui sont toujours posées. C'est la Shoah, d'une part, quand on est en France. Les camps, c'est la Shoah. Vous ne pouvez pas parler de camps, parce que historiquement, c'est trop lourd. Utilisez donc d'autres mots. Et puis, on ne peut pas comparer. Et donc, Achille a magistralement, dans la première partie de son exposé, démontré qu'il y avait une trace historique, mémorielle, quelque part, de l'histoire des camps dans les camps contemporains. Mais c'est vrai que j'insiste, et nous avons tous insisté dans cet ouvrage, sur la contemporanéité des camps et même la prospective, la projection. Et donc l'autre question, c'est que nous avons toujours cette question, mais les camps humanitaires, ce n'est pas la même chose que les camps d'étrangers, c'est pour le bien des gens, et peut-être que ce bien des gens peut avoir parfois des effets malheureux, mais enfin quand même, c'est toujours pour le bien des gens. Alors moi, j'ai deux réponses. J'en ai une immédiate qui est catégorique, non, pas toujours. C'est-à-dire qu'il faut allons voir l'urgence. Lorsque nous parlons de l'urgence, cette urgence magnifique qui nous fait dire que les ONG sont magnifiques parce qu'elles interviennent d'urgence. C'est les pompiers de toutes les catastrophes de la mondialisation. Elles font le bien dans le monde, même si, par ailleurs, il y a de la politisation, il y a des dérives, il y a tout ce qu'on veut. Mais le nœud, le cœur est magnifique. Non, c'est pas vrai. Et ça, c'est radical. J'ai suffisamment fait de terrain dans des camps de toutes sortes pour vous dire non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'urgence, c'est quelque chose où il n'y a jamais personne. L'urgence de la catastrophe, l'urgence de la guerre, celle qui nous fait l'émotion, qui nous fait dire que tout le reste, c'est bon parce que c'est le salut, c'est pas vrai parce qu'à ce moment-là, il n'y a personne. Une guerre éclate, les gens sont dans une violence, ils se font tuer, ceux qui ne se font pas tuer partent. Moi, j'ai vu énormément de gens qui ont fait des parcours comme ça. En Guinée, j'ai rencontré des gens qui avaient fui des invasions de guérilla dans leur village. Ils avaient erré dans les forêts, dans les villages, dans les forêts, dans les villages. Ils avaient mangé des racines. Ils s'étaient fait torturer, violer, tuer. Ils avaient perdu des bouts de famille. Ils étaient passés par toutes ces choses qu'on appelle l'urgence, sans qu'il n'y ait jamais personne. Donc les ONG, là, elles n'y sont pas. Et donc ils sont arrivés à un moment donné, ils ont réussi à passer une frontière. À un moment donné, on les a trouvés dans un endroit. Quelqu'un les a récupérés, les a mis dans un camp poste de... C'est pour ça que je l'ai mis. C'était des points que je connaissais. Je l'ai mis dans ma liste de départ auxquels Achille se référait. Les points de passage frontaliers, ça existe. Le point de passage frontalier, c'est un espace qui est entre deux frontières. La frontière libérienne, c'est très précis dans mon esprit. La frontière du Libéria, on la passe. La frontière de la Guinée, elle est 200 mètres plus loin. Et entre les deux, il y a des tentes, des gens qui sont installés. Là, il y a une ONG, effectivement, qui est venue, qui a dit, voilà, là, on vous met des tentes. Mais là, il ne se passe rien, parce que les gens sont dans une espèce de misère totale, d'infra-humanité, où, effectivement, il ne se passe rien. Et puis, plus tard, à un moment donné, un camion du HCR arrive. Et là, depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment de l'urgence où le salut humanitaire aurait justifié un petit peu tout ce propos, il s'est déjà passé 6 mois. Donc tous ceux qui devaient mourir sont déjà morts. À ce moment-là, il y a le camp du HCR qui arrive et qui dit, voilà, on vous reconnaît comme réfugiés si vous allez dans le camp. Et les gens disent, non, nous ne voulons pas aller dans les camps. Nous ne voulons pas de camp. Et alors si vous n'avez pas de camp, vous êtes illégaux. Donc il y a des gens qui font le choix d'être illégaux, qui vont dans les villages et dans un autre village qui s'approche de Conakry. Et à Conakry, ils vont se regrouper, par exemple, dans les quartiers qui sont l'équivalent des campements, les quartiers de migrants clandestins libériens. Ils se retrouveront à côté du quartier des migrants clandestins sierra-léonais, parce qu'eux aussi, c'est pareil. Et par ailleurs, il y a ceux qui ont accepté d'aller dans le camion et qui sont allés dans le camp de réfugiés, dans la Guinée forestière, où là, on va les compter comme réfugiés. Ils vont être encampés, ceux-là, et ils seront... Donc, première réponse, excusez-moi d'être long, mais c'est vrai que non, ça n'est pas du tout aussi évident. Et à l'intérieur du HCR aujourd'hui, il existe des courants critiques, on le sait très bien, et notamment des courants critiques qui disent que, finalement, au bout du compte, si le camp est de toute évidence la forme logistique qui correspond à l'urgence, c'est de toute évidence la forme logistique... Du point de vue de l'ONG elle-même, mais pas du point de vue des gens. Parce qu'on se pose quelque part, on met le camp quelque part, et on dit aux gens, le salut, c'est en venant vers le camp. Et donc, il y a des courants, donc là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je sais que ça existe aujourd'hui, des courants qui disent, arrêtons la solution du camp, et essayons de voir s'il n'existe pas une autre solution qui est d'aller, que ce soit l'inverse, que ce soit les organisations qui vont vers... Qui vont vers les réfugiés. D'autre part, donc je vais aller plus vite là. D'autre part, c'est d'autant moins non critiquable. Et ma critique ne s'adresse pas à des gens en particulier ou à des organisations en particulier. C'est une critique d'un dispositif que toujours ça dure. Et c'est bien le problème de ces installations qui, à un moment donné, peuvent paraître évidentes. On va dire ça ne va pas durer. On pourra en reparler. Un accueil hospitalier peut prendre la forme, à un moment donné, de quelque chose où on dit à des gens « Arrivez, on va vous aider ». Simplement là, c'est « Arrivez, on va vous aider et on vous délimite votre espace et on vous l'enferme ». Et ça dure des mois et des années. Et c'est là où, finalement, on peut en faire un livre, parce qu'on est entré dans l'histoire, on est entré dans du tissu social, dans de l'ancrage social. Et donc, ça devient un fait social, comme ça a été dit. Et puis, troisièmement, et là, je veux juste à la fois être d'accord et répondre à Achille, ça peut paraître compliqué ou banal, mais fermer les camps, c'est les ouvrir, ça n'est pas les détruire. Et donc, c'est premièrement ne pas les ouvrir. Donc, il y a d'autres solutions que la forme du camp. Et deuxièmement, quand les camps existent, et les camps existent déjà par milliers, avec des encampés par millions, ceux-là, on ne peut pas leur dire on vous déteste. Ceux-là, ils ont déjà transformé les lieux. Et donc, effectivement, fermer les camps, c'est les transformer, c'est les ouvrir. les camps palestiniens, aujourd'hui, se posent en permanence cette question-là. Ils sont les plus urbanisés, les plus développés. C'est du ghetto qui peut imploser ou alors effectivement, ça s'ouvre. Et ça passe maintenant par des formes de reconnaissance des gens qui sont là, par des formes de reconnaissance du lieu. Et les gens continuent à être dans le camp. Et Alessandro le sait, il le mentionne dans leur chapitre, des gens qui disent « Oui, mais finalement, j'aime bien mon camp. Et si vous voulez me faire retourner, il faudrait que j'amène mon camp avec moi maintenant. » Parce qu'après 60 ans, c'est leur lieu de vie, quoi.
Oui, vous citiez cet homme qui avait écrit sur sa tente, devenu une petite maison, « Ici, c'est chez moi. J'habite ici, c'est chez moi. » Je voulais demander à Clara Lecadet si elle souhaitait dire un mot, et puis également si Michel Lussault et Claire Rodier, sur ce chapitre, veulent dire leur mot. Clara Lecadet.
Oui, juste un mot, enfin, par rapport à ce qu'a dit Achim Mbembe, ça me faisait penser à un texte qu'écrit Anna Arendt après la Seconde Guerre, et où elle exprime son inquiétude par rapport à la normalisation, enfin, qui est en fait beaucoup plus ancienne, mais à la normalisation des expulsions d'étrangers sur le territoire américain. Et elle constate, à la fois inquiète et très effarée, que les vagues d'expulsion qu'on a condamnées pendant l'entre-deux-guerres, parce qu'on sait qu'elles ont mené à la déportation, à l'extermination des populations, sont devenues finalement le cadre légal, régulier, d'un certain nombre de démocraties libérales. Et je pense que cette inquiétude, elle dit aussi quelque chose des camps. C'est-à-dire que la représentation des camps de la Seconde Guerre, avec toute leur charge évidemment de mort, d'extermination, d'annihilation de l'être humain, etc., c'est comme si ces formes-là, dans le caractère le plus radical et le plus extrême, elles s'étaient maintenant diluées, disséminées, pour devenir une sorte de matrice beaucoup plus, je sais pas, banale, commune du monde contemporain. Alors évidemment, sans qu'il y ait les mêmes finalités, mais comme si, enfin, c'est pour ça que je pense que ça va avec l'idée qu'on peut tous potentiellement devenir un camp, c'est-à-dire que on peut plus dire que ces formes-là, elles appartiennent à un contexte de violence extrême. Ça, c'est justement, elles se sont diffusées de manière moins mortelle, plus infinitésimale, etc., dans la politique en général. Et c'est pour ça que c'est très difficile de les nommer. De dire à quelle intention politique elles correspondent, parce qu'on n'est plus dans les schémas classiques de la guerre à durée déterminée, des grandes stratégies d'extermination, etc. C'est quelque chose de plus homéopathique, mais qui finalement constitue la matrice de la politique à l'échelle internationale.
Michel Lussault.
Oui, la question que vous posez, on pourrait la poser pour, par exemple, les bidonvilles. Hein. D'ailleurs, elle a souvent été posée. Je crois même que tu cites à un moment le livre de Doug Saunders qu'on avait rencontré ensemble à Lyon, « Ces migrants qui changent la ville ». Alors voilà, est-ce qu'on a une vision de type Mike Davis des bidonvilles, c'est-à-dire l'enfer tous les jours, chaque jour à vivre, ou au contraire, on en fait, comme dit Saunders, des espaces tremplins, hein, c'est-à-dire des lieux difficiles, certes, mais à partir desquels des capacités individuelles et collectives se construisent. Pour répondre à cette question de manière non idéologique, il n'y a qu'une solution, c'est documenter les cas. Et ce que fait magnifiquement ce livre. Et en même temps, le faisant, il ne nous rend pas service pour apporter de réponse simple à la question. Hein. C'est-à-dire parce qu'évidemment, comme les camps sont très nombreux, très différents, on en parlera demain dans les tables rondes, avec des profils très, très variés, qu'il y a même des camps qui sont des autocamps, en quelque sorte, c'est-à-dire des camps qui sont construits non pas par des ONG ou des acteurs habituels de l'urgence, mais par des habitants eux-mêmes, hein, qui en quelque sorte s'approprient la forme camp et la reproduisent dans des situations un peu différentes. Ça devient très difficile d'avoir un avis péremptoire, même si on peut évidemment être heurté par la logique de l'encampement. Deuxième remarque, si j'ai tenu à terminer sur cette petite proposition hein, du géopouvoir comme pouvoir de spatialiser la vie, c'est parce qu'en fait je suis engagé dans une déconstruction de l'urbanisme contemporain et pour moi le camp, la forme camp n'est qu'un des lieux d'expression de ce géopouvoir qui, lui, alors pour le coup, est complètement critiquable. Et là, je rejoindrai peut-être en dépassant la proposition d'Achille Mbembe, alors faut-il fermer ou ouvrir les camps, mais en disant il y a surtout une manière de proposer des cadres de vie habitables aux humains que nous ne devons plus souffrir. Et de ce point de vue-là, c'est l'ensemble, par exemple, des pratiques de zonage fonctionnel, l'ensemble d'un certain type de pratiques de logistique, des modalités particulières d'assignation des individus à des types d'existence qui me paraissent extrêmement critiquables, mais bien au-delà de la forme camp, simplement la forme camp les emblématise, les cristallise de la manière la plus forte qui soit. Et je pense qu'il n'y a peut-être rien de plus urgent aussi dans le champ des études urbaines, mettons, que de critiquer un certain type d'urbanisme qui s'impose avec régularité et qui nous pousse finalement à installer des espaces de vie dont l'habitabilité pour tous devient de plus en plus problématique.
Merci. Claire Audier, vous vouliez ajouter un mot ?
Un commentaire et une question. Un commentaire à propos de ce que tu dis, Michel. Je vais le résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Finalement, à propos du HCR... du rôle du HCR, on peut considérer que les camps constituent aussi une raison d'exister des organisations humanitaires et du HCR. Donc, c'est un raccourci, mais voilà, c'est un peu ça. Donc, ça, il faut que ça dure, puisque sinon...
C'est du business.
Je ne l'ai pas dit. Mais du coup, ça me fait penser, je vous ai parlé de ce travail que fait notre réseau qui vise à l'ouverture des camps, l'ouverture en tout cas qu'on puisse y rentrer, les rendre transparents, libérer l'accès à un œil extérieur auquel je vous invite à vous associer d'ailleurs. C'est intéressant de voir que certaines associations dans notre entourage, y compris dans le réseau, sont pas d'accord avec cette position parce qu'elles considèrent que demander l'accès, c'est légitimer des dispositifs qu'elles condamnent. Elles veulent les faire sauter, voilà, les faire exploser, qu'on les ferme tout de suite. Donc pas de légitimation, pas d'humanisation parce que c'est une façon de faire durer. Voilà, c'est juste un petit... c'est parce que nous aussi, on a des contradictions dans notre sein. Et la question, c'est à propos de cette histoire de camp et de la dénomination. Migrop a été accusé il y a quelques années d'utiliser abusivement le mot camp pour les camps d'étrangers, avec les mêmes motifs. Hein. Ça évoque des... voilà, il y a des analogies honteuses que vous ne devriez pas faire avec les camps nazis, etc. Donc on a pris la peine de nous justifier en expliquant que derrière le mot camp, il y avait des tas de choses. Achille Mbembe l'a dit beaucoup mieux, mais voilà, on a essayé de faire ça. Mais ce que je me demande, c'est pourquoi ça gêne des gens d'entendre qu'on utilise le mot camp pour les centres de rétention d'étrangers, là, mais pourquoi ça gêne pas qu'on l'utilise pour les camps de réfugiés ? Et est-ce que ça ne veut pas dire que ceux qui nous reprochent d'utiliser ce mot pour des camps de rétention d'étrangers voient bien ce qu'il y a de féroce dans la détention des étrangers, et que peut-être le vernis humanitaire des camps du HCR, du coup, permet de faire passer la pilule. Je ne sais pas, c'est juste une question que je vous pose comme ça.
Merci Claire Audier. Je crois que le débat est lancé, en tout cas, et je pense que, et demain, et après-demain, vous aurez tous l'occasion, derrière cette table, de continuer la réflexion, et vous... si vous nous faites l'amitié de venir, de poser des questions afin que le débat continue. Merci à tous.